féminin. Au féminin. Au féminin. Au féminin.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Niger, les centres de soins contraceptifs de l'ONG britannique Maristops International ont rouvert après s'être mis en règle, a indiqué le ministère de la Santé. Les deux centres de l'ONG à Niamey et Maradi avaient été fermés en novembre 2018 pour pratique de l'IVG, alors que le protocole de partenariat avec le Niger ne l'autorisait pas. Le cabinet de Maristops à Niamey accueille la moitié de ses patientes pour des services de planification familiale. Les autorités ambitionnent de porter le taux de contraception à 50% d'ici 2020, contre environ 13% actuellement, grâce à un plan d'action national lancé en 2013 et une loi qui favorise l'accès et la gratuité des produits contraceptifs. Des centaines de militants, principalement des femmes, ont protesté contre les meurtres et viols de femmes en Afrique du Sud. En marge du Forum économique mondial sur l'Afrique au Cap début septembre, les assassinats de deux jeunes femmes, Néné Mouetiana, étudiante à l'université du Cap, et la championne de boxe Baby Lee, ont choqué la société sud-africaine. Monsieur le Président, les hommes nous violent, les hommes nous tuent, qu'est-ce que vous faites ? Proclamer leur banderole. Pressé de réagir, Cyril Ramaphosa a promis d'agir. Selon la ministre des Femmes, Maïté Nkwana Machabane, plus de 30 femmes ont été tuées par leur conjoint au mois d'août. Par ailleurs, le pays enregistre 137 viols et agressions sexuelles par jour. Ces fémicides en Afrique du Sud ne sont pas des actes de violence fortuits. Ils reflètent une urgence nationale, a estimé la fondation de l'ancien archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix.
Parole de femme.
Un jour sur trois en France, une femme succombe à des violences conjugales. Début septembre, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé des nouvelles mesures pour y remédier. Nani Talani revient sur l'ouverture de la concertation à Paris concernant ce fléau universel.
D'après les chiffres publiés par le gouvernement, en France, une femme est tuée par son partenaire ou son ancien partenaire tous les trois jours. Parfois, des femmes sont tuées parce qu'elles restent avec un homme violent. Beaucoup sont tuées même si elles partent ou signalent aux autorités les menaces dont elles sont victimes. C'est le cas de Julie Douyib, mère de deux enfants, assassinée en mars dernier par son ancien partenaire. Son père, Lucien Douyib, témoigne.
Elle a porté plainte, comme je l'ai dit plusieurs fois, 5-6 fois. J'ai porté plainte pour menace de mort, 5-6 fois. On nous a écoutés, c'est vrai, mais on ne nous a pas écoutés non plus. On n'a pas su pourquoi, comment.
Cette année, Julie Douyib a été la 30e victime de violences domestiques en France. Après elle, 71 autres femmes ont été tuées. Ce bilan macabre a suscité l'indignation du public et des demandes d'action. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce mardi que le gouvernement a créé un fonds pour des logements d'urgence aux victimes de ces violences domestiques.
Car on sait que les femmes qui restent avec un conjoint violent s'y résignent en général, faute de moyens matériels et financiers, pour partir avec leurs enfants. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créées en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants.
D'autres mesures comprennent des programmes d'éducation pour les familles dysfonctionnelles et la police s'occupe des plaintes ainsi que des sanctions pour les agresseurs.
Quand le conjoint ou l'ex-conjoint rend l'air irrespirable, impunément, je suis convaincu que c'est toute la société qui est non seulement misérable, mais asphyxiée. Il est donc temps que nous assurions à toutes les Françaises le droit de respirer, avec ou sans leur conjoint.
La violence domestique est malheureusement une pratique courante dans le monde. D'après les Nations Unies, près de 30 000 femmes ont été tuées par leur partenaire intime en 2017, principalement à cause d'un manque de protection pour les femmes maltraitées.
Et le collectif féministe Nous Toutes qui milite contre les violences sexuelles et sexistes pointe la difficulté de reconnaissance des fémicides, disant que les meurtres de femmes sont recensés par les militantes sur la base d'articles de presse, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus en réalité. C'est un problème qu'il n'y ait pas de décompte officiel fait par les autorités qui tardent toujours à confirmer les fémicides, déplore le collectif. Le mouvement Nous Toutes avait dénoncé l'inaction du gouvernement 2 jours avant l'ouverture du lancement du Grenelle des violences conjugales, sous l'égide de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'enveloppe proposée par le gouvernement est largement inférieure à celle demandée par les associations de défense des droits des femmes qui réclament 500 millions d'euros pour mettre en place des mesures adéquates. Retour en Afrique du Sud, où l'IVG est fournie gratuitement dans les cliniques publiques. Mais les femmes sont confrontées à la stigmatisation ou la résistance du personnel de santé. Par conséquent, des avortements sont pratiqués de manière clandestine. Pour remédier au problème, MSF a créé un dispensaire spécialisé. Dans son reportage, Anita Powell a tendu son micro à une jeune fille. Le récit est de Dilidiko.
Cette étudiante sud-africaine est enceinte de 16 semaines, appelons-la Precious, comme elle l'a suggéré. Sa meilleure amie est également enceinte du petit copain de Precious. Cette grossesse imprévue a bouleversé la vie de Precious et l'a amenée à prendre ses décisions difficiles.
Je veux que cela soit fait aussi vite que possible, parce que je ne peux plus supporter cette situation. Je pense à ce qui se passe là. Je n'arrive pas à penser à des choses positives. Et si cela ne marchait pas, que vais-je faire alors? Devrais-je en finir avec ma vie?
Dans sa recherche d'un hôpital pratiquant l'avortement, Precious a rencontré tellement de désapprobation et fait face à tant de stigmatisation qu'elle a dû se rendre à Rustenburg, à 2 heures de Johannesburg, dans une clinique de santé reproductive dirigée par le groupe Médecins Sans Frontières. Les professionnels de la santé reproductive expliquent que de telles attitudes et une forte réprobation poussent chaque année plus de 10 000 femmes sud-africaines à pratiquer des avortements clandestins. Selon le ministère de la Santé, les avortements illégaux représentent 25% des décès dus à une fausse couche septique. Kgaladi Mfalele est en charge du projet de Médecins Sans Frontières à Rustenburg. Il explique que les services d'interruption de grossesse de la clinique sont très sollicités. Il dit pratiquer jusqu'à 100 avortements de premier trimestre par mois et reçoit des femmes venues du Botswana où l'avortement est illégal.
J'y repense et je me dis, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette profession? Je voulais travailler dans le domaine de la santé parce que mon souhait était d'aider les gens. Il y a clairement une zone d'ombre, car si personne ne le fait, quelqu'un doit forcément le faire. Et moi, j'aime travailler avec les gens.
Christa Tsomele, une infirmière qui pratique des avortements depuis une décennie, se dit fière de son travail. Elle dit également être convaincue que les propos de certains de ses collègues contribuent à la stigmatisation de l'avortement.
Si vous ne pouvez pas aider une patiente en tant qu'infirmière, vous devez la rediriger vers un endroit où elle pourra obtenir les soins recherchés. Ne vous contentez pas de lui dire non, je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas vous aider en laissant la patiente se débrouiller. C'est la raison pour laquelle elles finissent par aller chez des charlatans. Lorsque vous laissez la patiente se débrouiller, elle décide d'aller dans la rue et là, elle court le risque de mourir.
C'est justement cela qui motive Christa, en dépit des critiques, des larmes et des histoires difficiles qu'elle entend tous les jours. Parce que, dit-elle, que les gens soient d'accord ou pas avec son travail, elle aide les femmes à rester en vie.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 800 000 personnes mettent fin à leur jour chaque année dans le monde, soit une toutes les 40 secondes. L'OMS affirme toutefois que la tendance est en baisse dans toutes les régions du monde, sauf sur le continent américain, qui a enregistré une hausse de 6% en 6 ans. Plus de la moitié des personnes qui se suicident ont moins de 45 ans. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, c'est d'ailleurs la deuxième cause de décès après les accidents de la route. L'OMS a ainsi lancé une campagne sur la prévention du suicide en publiant notamment des recommandations pour les cinéastes et créateurs de séries télévisées.
Si jeunesse pouvait.
Les universités publiques au Niger traversent des crises multiformes ces dernières années. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, nous présente un état des lieux de l'enseignement supérieur grâce à des entretiens avec des étudiants et autres acteurs du milieu universitaire.
Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en relations internationales, sécurité, paix et gestion des conflits, Lamine Souleymane travaille actuellement sur un projet de thèse doctorale en médias et sécurité à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Niamey. Pour ses recherches, le jeune journaliste dit rencontrer beaucoup de difficultés en termes notamment d'accès aux ressources documentaires et de financement.
On n'a pas accès très rapidement et facilement, je dirais, à des documents. Vous pouvez passer un an avec votre projet de thèse assez fourni, mais très malheureusement, vous pouvez être heurté à un obstacle comme celui d'accéder à quelqu'un qui peut encadrer votre travail. La deuxième difficulté aussi, c'est l'accès à la bourse de recherche. Moi, je n'ai jamais eu une bourse, bénéficier d'une bourse de recherche depuis que j'ai commencé du cycle de 2A jusqu'à la phase où je suis. Il y a des moments où je me dis pourquoi est-ce que je ne dois même pas changer.
Ils sont nombreux comme Lamine dans cette situation. Même les enseignants-chercheurs font face au sous-financement des travaux, reconnaît Amadou Bounti Diallo du département de philosophie.
Ça c'est sérieux, vraiment celui qui vous dit qu'il est dans les conditions même minimales de recherche, vraiment, je pense que la raison qu'il donne n'est pas bien fondée. Même les bourses d'études censées chaque 2 ans permettre aux gens d'aller dans les universités étrangères pour se ressourcer et pour se mettre à niveau, ces bourses-là aujourd'hui prêtent en tout cas à plus ou moins confusion. On peut rester 2 ans, 3 ans sans obtenir en tout cas de... Et c'est pas des problèmes qu'on peut cacher, qu'on soit un officiel ou qu'on soit simplement un enseignant sans aucune...
Les autres défis de l'enseignement supérieur au Niger ont pour nom surpopulation dans les campus, insuffisance du corps enseignant, manque d'infrastructures. Tout cela concourt à la baisse généralisée du niveau des étudiants. Aussi, selon les observateurs, le système d'enseignement n'est pas suffisamment maîtrisé par tous les acteurs.
L'LMD, c'est un système avec une philosophie et surtout une flexibilité de la formation. Je pense que beaucoup d'acteurs sont dans le système sans pouvoir le maîtriser. Et vous constatez que donc, on a ouvert des filières en LMD, aussi bien dans les universités publiques que dans les écoles. Mais concrètement, qu'est-ce que cela donne en tant que produit fini sur le marché? Vous constatez que le produit fini n'est pas à la hauteur.
Le Niger compte 8 universités publiques. Celle de Niamey est la plus ancienne et la plus peuplée, avec un effectif de plus de 23 000 étudiants en 2018, suivi par quelques 500 enseignants et chercheurs. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Oh,
défi relevé pour deux jeunes pilotes sénégalais dans le sillage des pionniers Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry. Ils ont effectué un vol aller-retour entre Saint-Louis du Sénégal et Paris à bord d'un petit avion de 4 places. Fort de leur expérience, ils visitent les écoles sénégalaises pour inciter les enfants à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Un reportage d'Alison Lekogo Fernandez.
Exténué mais heureux, Biram Koulibaly, 36 ans, et Maoudon Diaye, 25 ans, sont de retour au Bercail après avoir passé plus de 50 heures dans les airs en quelques jours, avoir foulé le sol de 5 pays différents dans le sens aller-retour et parcouru près de 10 000 kilomètres. Un rêve d'enfant pour ces deux natifs de Dakar, dont l'un, le plus jeune, est pilote professionnel et l'autre agent dans le marketing mais passionné d'aviation. Le projet s'est concrétisé il y a quelques mois à peine, en février dernier, au cours d'une conversation entre les deux amis, Maoudon Diaye.
Biram et moi, on s'est assis au niveau du bar de l'aéroclub et on s'est dit pourquoi pas ramener un avion jusqu'en France, quoi. Parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de rallyes qui venaient d'Europe. On s'est dit pourquoi pas essayer de faire l'aéropostal de Jean Mermoz dans le sens inverse.
Siège.
Réglé.
Fan Park.
En place.
En 4 mois, les deux compères trouvent des sponsors pour financer leur projet, mettent leur petit avion de 4 places aux normes internationales, préparent leur itinéraire et s'occupent de la maintenance de leur engin qui ne dépasse pas les 5h30 d'autonomie. Un vrai défi technique, logistique et humain pour les deux pilotes. Biram Koulibaly.
Arrivé en France, en fait, quand on a atterri, déjà Maoudou et moi, on s'est regardé. On s'est dit, on y est. Et ensuite, quand on a roulé pour aller au parking, on se rendait pas compte qu'il y avait autant de monde qui nous attendait, en fait. On a vu le monde, on s'est dit, mais waouh, mais c'est quoi tous ces gens, ils viennent d'où? Et ça, ça nous a énormément touchés. Et je peux vous dire que le moment de garer l'avion, ben, on était en train de trembler, Maoudou et moi. Déjà, on avait peur de descendre et surtout, on avait une petite fierté de se dire, on l'a amené jusqu'ici, cet avion, en fait.
Lors de ce premier exploit, Biram et Maoudou ont pris goût au défi. Ils souhaitent d'ici quelques mois partir à la conquête de l'Afrique avec leur petit monomoteur. Mais avant, ils ont à cœur de se rendre dans les écoles sénégalaises pour partager leur expérience et faire comprendre à la jeunesse de leur pays qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Et oui, et si la jeunesse pouvait ?
Des milliers d'enfants du nord-ouest de la Syrie risquent d'être privés d'éducation à cause des bombardements et combats ayant détruit des dizaines d'écoles, déplore Save the Children. Selon l'ONG britannique et ses partenaires, 87 établissements éducatifs ont été endommagés par les combats et plus de 200 écoles sont actuellement utilisées comme abris. Seulement la moitié des établissements du secteur sont opérationnels et peuvent accueillir 300 000 enfants sur un total de 650 000. Le 10 septembre dernier, Human Rights Watch a exhorté le Nigeria à libérer des milliers d'enfants détenus par l'armée en raison de liens présumés avec les insurgés islamistes. L'ONG affirme que ces enfants sont détenus dans des conditions inhumaines, en particulier dans la caserne de Giwa à Maïdougouri. L'ONG a interrogé 32 enfants de cette caserne, dont le plus jeune n'avait que 5 ans. De nombreux enfants ont dit avoir été arrêtés après avoir fui des attaques des insurgés islamistes. Plusieurs filles enlevées ont été victimes de mariages forcés pratiqués par les islamistes armés. Une dizaine d'enfants interrogés ont dit avoir été battus après leur arrestation. L'armée nigériane a rejeté les conclusions du rapport, affirmant que les enfants sont gardés dans des sites sécurisés où ils sont nourris de manière adéquate, que leur profil est examiné et qu'ils sont déradicalisés avant d'être remis en liberté.
Entre parenthèses.
La transformation du cacao pourrait connaître un plein essor au Cameroun au regard des produits issus de ce secteur d'activité. En effet, de nombreuses start-up créées par des jeunes et des femmes fabriquent à base de cacao des produits cosmétiques, diététiques et aux vertus thérapeutiques. Les consommateurs ont pu évaluer la qualité de ces produits lors du Festival international du cacao en août dernier. Retour sur cet événement à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Julntap.
Un kilogramme de cacao s'achète au Cameroun à 1500 francs CFA. Le prix est relativement bas, mais cette donne a ouvert la voie à la filière de la transformation locale qui se fait encore à une forte proportion de manière artisanale.
Nous ne savons pas ce que c'est que le cacao. Nous sommes en train de l'étudier et je crois qu'avec le temps, nous n'allons plus l'exporter.
Suzanne Noël Ayolo dirige une start-up de transformation et de conditionnement du cacao depuis 4 ans à Ebolova, dans la région du Sud, et emploie 4 personnes.
Nous transformons le cacao en général. Donc à partir de son jus, de ses cabosses jusqu'à la fève, nous obtenons comme par exemple le jus naturel de cacao, la confiture de cacao, les fèves de cacao nous donnent le cacao torréfié, la poudre de cacao et le beurre de cacao. Nous faisons essentiellement dans le naturel.
Les produits bio à base de cacao, c'est le label que défendent les locaux. Par exemple, dans le groupe de la Roche internationale, qui a un laboratoire naturopathe et de cacao thérapie, Roche Bodio est le promoteur.
Mes produits sont 100% naturels et bio. C'est fait à la main. J'ai des partenaires qui me produisent du cacao bio, qui ont été formés par moi pour le choix des cabosses et pour la fermentation spéciale avant que la matière première n'arrive à mon laboratoire. Avec notre cacao, on peut éviter les accidents cérébrovasculaires et neurologiques.
La transformation du cacao profite aussi au secteur du cosmétique. Sur le site d'exposition lors du Festival international du cacao, un institut de beauté a présenté au public un masque facial à base de poudre de cacao. Lisa Onana est une employée de cet institut.
Le cacao a pour but de régénérer les cellules de la peau, de donner l'éclat et pas d'effet secondaire à la longue.
Marie-Claire, une jeune étudiante, a découvert le soin de visage à partir de la poudre de cacao et donne son avis.
J'ai eu l'habitude d'utiliser certains soins de visage qui me dérangeaient la peau. Ce produit a été très doucement. Une nette différence d'abord au visuel et au toucher aussi.
Les retombées financières de la transformation locale du cacao commencent à tomber chez certains opérateurs. À Ebebda, une localité située à 78 km de Yaoundé, Bruno Ebassa dirige une petite unité de production et de transformation du cacao.
Un litre de beurre de cacao à 25 000, il n'y a pas beaucoup de preneurs. Nous sommes descendus à 10 000, on trouve quand même un peu plus de preneurs qu'avant.
Le pays transforme environ 25% de ses fèves. Le gouvernement encourage plus de initiative de transformation locale du cacao. Luc Malguambarga Atangana, ministre du Commerce.
Nous sommes à près de 100 000 tonnes en l'espace de 5 ans et l'objectif est d'arriver à pouvoir transformer 40%.
Une usine de transformation des fèves pour la production du beurre et de la poudre de cacao est fonctionnelle au Cameroun depuis avril dernier. Elle est dotée d'une capacité de production annuelle de 32 000 tonnes. Yaoundé, Emmanuel Julntap, VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voaafrique.lmf pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!